Ce psaume 24 est donc, comme bien d'autres psaumes, un psaume de louange, un psaume bien beau et que nous aimons lire, partager, méditer, prier, mais dont le sens très en détail souvent nous échappe. Et ça n'est pas qu'à vous, puisque même beaucoup de traducteurs passent à côté de l'essentiel, et en particulier des deux premiers mots en hébreu du psaume, qui sont « psaume de David ». Certains, dans la plupart de nos éditions bibliques, c'est mis comme si c'était un titre, comme si c'était un titre rajouté même par l'éditeur, comme on met « parabole des talents » avant le texte du Christ, et même certaines traductions omettent carrément ce titre, c'est le cas du psautier écuménique, je vous l'ai dit. Or, c'est très grave, parce que le psaume commence par ces mots « psaume de David » ou « à David, cantique ». C'est important parce que on voit que le début du psaume ensuite dit « à David, cantique, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle possède, la terre et tout ce qui est en elle ». Et donc nous voyons deux choses, c'est que à David, ce qui appartient, c'est de chanter, et à l'Éternel, ce qui appartient, c'est la terre. Et avec la même formule. Et du coup, nous voyons une chose essentielle, c'est que effectivement, le monde appartient à Dieu et pas à l'homme, mais ce qui appartient à l'homme, c'est de chanter le monde. Alors, on pourrait y faire pas mal de digressions écologiques, en disant le monde n'appartient pas à l'homme, mais il appartient à Dieu lui-même, et l'homme, lui, n'est pas propriétaire du monde, mais ce qu'il a à faire, c'est de chanter le monde, c'est-à-dire de faire résonner dans ce monde une parole qui soit une parole d'harmonie et une parole d'amour. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, le fait que ce soit David ou pas qui a écrit le cantique, on s'en fiche complètement, mais simplement en hébreu, je vais essayer de ne pas faire trop référence à l'hébreu, en hébreu, David, c'est le même mot que amour, c'est-à-dire c'était le roi qui s'appelait Amour, ou comme le prénom aimé en français, et donc le chant de David, eh bien ça se lit le chant de l'amour. Autrement dit, ce que l'homme est invité à faire dans le monde, c'est simplement à faire résonner l'amour et à le faire chanter. À l'Éternel, la terre et son plein, le monde et les habitants sont en lui. Là, j'ai un petit désaccord avec la plupart des traducteurs qui disent donc à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Moi, je crois que le « lui », le monde et les habitants en lui, le « lui » ne renvoie certainement pas à la terre, mais à l'Éternel lui-même. Et donc je pense que c'est à l'Éternel et la terre, et le monde et ses habitants de la terre sont en lui, c'est-à-dire sont en l'Éternel. Et je pense que là, c'est encore une autre affirmation théologique, c'est que le monde, les habitants, tout ce qui est sur la terre est en Dieu. Oula, ça m'emmène dans une piste que je ne voudrais pas explorer aujourd'hui parce que je n'en ai pas le temps. Pour explorer ça, vous lirez simplement l'œuvre du grand théologien Baruch Spinoza, qui a été traité de... Enfin, on a dit que sa pensée était une pensée panenthéiste, c'est-à-dire disant que, en fait, tout est en Dieu et que Dieu est finalement quelque chose qui dépasse le monde, mais que chaque chose ne peut subsister que dans la mesure où elle est en Dieu. Et je crois que c'est assez vrai. On ne peut pas vivre ou subsister sans être en Dieu. Nous sommes tous plus ou moins naturellement, dès le moment qu'on appartient à la création, on participe, je dirais, à la puissance d'être qui est Dieu lui-même. Sinon, notre être ne serait même pas. Mais même dans notre être spirituel, psychologique, intérieur, à nous-mêmes, je dirais, je pense que nous ne pouvons subsister que si nous sommes en Dieu, c'est-à-dire si nous nous branchons sur une source de vie. Sinon, nous sommes comme une plante coupée de son bocal de terre, ou une plante sans eau, ou un moteur sans essence. Il n'y a pas la puissance de l'être qui permet d'être. Et je pense que la vie spirituelle consiste justement à trouver une autre forme d'enracinement dans cette puissance de création qu'est Dieu lui-même, pour se régénérer en lui et se recharger par une puissance d'être. Donc oui, le psaume a raison. À l'Éternel est la terre et tout ce qui est dedans, tout ce dont elle est pleine, le monde et tous ses habitants sont en lui. C'est une affirmation fondamentale. Car, nous dit le verset 2, c'est lui qui sur les mers l'a fondé et sur les fleuves l'a affermi. » Alors là, ça m'intéresse parce que, évidemment, j'ai lu pour aujourd'hui les commentaires chrétiens. Et tous les commentaires nous abreuvent de commentaires historico-critiques, de religions comparées. Ils disent « Oh, ça, c'est quelque chose qui a hérité de la théologie perse. » Alors moi, je ne connais rien à la théologie perse et je vais vous dire, je m'en fiche un peu. Que ce soit hérité de la théologie perse, de celle des Madianites ou de celle des Borduro-Sildaves, peu m'importe. Moi, je lis un texte et je ne sais pas d'où ça vient. On dit simplement, c'est l'Éternel qui a fondé le monde sur la mer et sur les fleuves. Et je me dis, tiens, deux choses importantes. D'abord, l'idée de fondation. Ça, c'est important parce que, en ce moment, je célèbre des mariages et les mariés, presque à chaque fois, veulent qu'on prêche sur le texte de l'Évangile, de la maison fondée sur le roc. Et c'est vrai, en un sens. Il y a en Dieu, dans l'Évangile, dans notre foi, quelque chose qui est de l'ordre de la fondation, quelque chose de solide sur lequel nous pouvons, nous, ensuite, construire notre maison, notre vie, avec nos qualités, notre liberté, ce que nous sommes. Mais l'essentiel, c'est la fondation. Et je pense qu'une bonne théologie, que Dieu lui-même, cette foi évangélique, chrétienne, eh bien, c'est un fondement, un enracinement sur lequel on peut construire quelque chose de solide. Donc oui, d'accord, certainement, Dieu est une fondation solide. Mais tu parles d'une fondation sur le roc, on nous dit que Dieu l'a fondée sur la mer et sur les fleuves. Alors maintenant, essayez de fonder quelque chose de solide sur la mer et sur les fleuves. On est loin du roc. Et d'une certaine manière, ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que dans ma vie, qu'y a-t-il de solide ? Dans ma vie, ce que je vois, sur quoi je peux construire, eh bien, je peux construire sur ma faiblesse, sur mes péchés, sur mes manquements, sur mes deuils. Et combien de personnes parmi vous, dans l'épreuve, la difficulté, finalement, ne disent « Mais dans ma vie, il n'y a qu'un champ de ruines, et il n'y a que des choses qui vont et qui viennent, des choses qui passent, des choses que je croyais solides et qui disparaissent. » Eh bien, le psaume nous dit « Avec Dieu, vous pouvez fonder quelque chose de solide, même sur la mer et même sur le fleuve. » C'est-à-dire même sur tout ce qui dans votre vie semble si fragile, sur tout ce qui dans votre vie est comme la mer, une puissance de mort et d'engloutissement, eh bien Dieu peut fonder là-dessus quelque chose de solide. Ça, c'est le vrai miracle, je crois, de la puissance de Dieu. Et on le trouve aussi dans l'Évangile, bien sûr, avec Pierre, qui grâce au Christ arrive à marcher sur l'eau. Ça, c'est merveilleux. Je ne crois pas une minute à quelque chose qui serait de l'ordre d'une activité nautique où Pierre marcherait physiquement sur l'eau. Mais l'eau, c'est l'épreuve, la mort, ce qui devait normalement l'engloutir. Avec l'aide de Dieu, Pierre arrive à marcher par-dessus. Ce qui normalement devait le détruire devient ce qui le porte. Et nous pouvons aussi, dans nos épreuves, ou plutôt que de se laisser noyer par ce qui pourrait nous engloutir, dire avec l'aide de Dieu, ça peut devenir ce sur quoi je construis. Et non seulement ça me porte, non seulement je peux marcher dessus, mais en plus, je peux construire quelque chose de solide là-dessus. C'est une véritable bonne nouvelle. Qui montera sur la montagne de l'Éternel, qui se lèvera dans le lieu de sainteté, nous dit le psaume pour continuer. Monter sur la montagne, eh bien, là le psaume est encore une fois extraordinairement avisé. Parce que vous voyez qu'il s'agit là de monter sur la montagne, alors on voit l'image. La montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. La montagne, c'est le lieu de la lumière, où on domine toute chose, on est au-dessus, tout va bien, et on ne craint pas les ennemis qui ne peuvent pas vous prendre par surprise. Alors, mais là, il s'agit de monter sur la montagne alors que nous sommes déjà libérés. Et de marcher sur la mer et de traverser les fleuves, ça nous fait penser à rien, mais si, la sortie d'Égypte. Le peuple qui sort d'Égypte et qui monte ensuite sur la montagne du Sinaï. Et cette sortie d'Égypte est une des plus belles expressions de la grâce de toute la Bible. Parce que Dieu libère le peuple sans aucune condition. Il ne dit pas, montez d'abord sur la montagne et je verrai ceux qui sont montés, eux je les libérerai d'Égypte. Il commence par libérer bons et mauvais, pécheurs et justes, tout le monde libéré. Et ensuite, dans le désert, il l'invite à venir rendre grâce sur la montagne. Et du coup, s'élever sur la montagne, c'est-à-dire s'élever spirituellement, ce que nous faisons par la prière, par l'action de grâce, par la méditation, par le culte, eh bien, on s'élève sur la montagne, non pas pour gagner l'action de Dieu qui est déjà acquise, mais pour rendre grâce, parce que nous sommes libérés, nous pouvons venir rendre grâce à Dieu, reconnaître cette grandeur de Dieu, et cette action de grâce est absolument essentielle, et parce que nous savons que nous sommes libérés, nous pouvons accéder à une dimension de lumière, de sainteté, d'éternité, qui est au-delà du matériel. Et donc celui qui peut monter sur cette montagne, nous dit le verset 4, c'est celui qui est le propre de main, le pur de cœur, qui ne lève pas en vain mon âme ou son âme, on ne sait pas, et qui n'a pas juré pour ruse ou tromperie. Le pur de cœur, celui qui monte là, c'est celui qui a les mains propres et qui a le cœur pur. Et je ne voudrais pas en faire une sorte de lecture un peu moralisante en disant « il faut être pur, sans tache, sans péché, etc. pour mériter d'accéder à la montagne de Dieu ». Mais je dirais plutôt que la main, effectivement, et le cœur, c'est la façon de penser et d'agir. Donc il ne dit pas « c'est celui qui a une main en or, celui qui a un cœur généreux, plein de diamants et de richesses, mais celui simplement qui a les mains propres ». C'est-à-dire celui qui, on ne lui demande pas d'avoir fait ni bien ni mal, mais simplement d'avoir une sorte de disponibilité et de transparence. C'est peut-être ça la seule chose qu'on demande finalement aux chrétiens, c'est d'être transparent par rapport à cette puissance de pardon et d'amour qu'est Dieu. C'est tout ce que nous sommes invités à faire, à ne pas mettre d'obstacle, si vous voulez, à cette puissance de Dieu qui ne demande qu'à venir en nous. Et pour monter à Dieu, ce n'est pas la peine, je dirais, de faire preuve de qualité, de force, de vigueur, mais simplement d'accueillir et d'être transparent. Et donc la foi, voyez-vous, n'est pas un mat de cocagne où il faudrait essayer d'escalader par sa propre force, mais se laisser porter par une puissance qui nous précède. Quant à ce cœur pur, eh bien, on le retrouve bien sûr dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit le Christ dans ce passage. Et j'ai cherché d'où venait ce mot pur, qui m'inquiète toujours un peu, parce que dans le christianisme, depuis des millénaires, il y a des relents de quête de pureté. Et j'ai toujours peur de ceux qui sont en quête de pureté, parce que qui veut faire l'ange fait la bête. Eh bien, la pureté, bar en hébreu, vient de barar, qui veut dire perfectionner, purifier, entraîner, et ça s'utilise aussi pour un couteau qu'on aiguise progressivement, une épée qu'on effile, c'est-à-dire qu'il y a un travail de perfectionnement progressif, petit à petit. Et j'aime cette idée d'un cœur que l'on arrive à affiner progressivement, je dirais lentement, petit à petit, pour être capable d'une certaine transparence. Quant à la suite, on nous dit donc celui qui a le cœur pur et qui n'élève pas son âme vers la fausseté. Alors, on pourrait dire, il n'élève pas son âme vers la fausseté, c'est-à-dire qu'il se garde du mal. Mais là encore, c'est nos traducteurs qui tombent dans le piège. Parce que figurez-vous que le texte biblique ne dit pas ça. C'est incroyable, hein ? Lisez ma traduction, qui est la seule fidèle. Il n'y a pas écrit qu'il n'élève pas son âme vers la fausseté, mais qui n'élève pas mon âme. Et c'est Dieu qui parle. Et donc, ce n'est pas la question de se dire, moi, je suis pas méchant, mais c'est de ne pas élever Dieu vers la fausseté. Et c'est en référence avec l'un des 10 commandements, qu'on traduit par « Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Eh bien, littéralement, il y a écrit « Tu n'élèveras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Élever le nom de Dieu, élever l'âme de Dieu, c'est-à-dire mettre en avant, je dirais, sa foi, sa pratique et sa conviction. Et ce que nous dit les 10 commandements, et ce que nous dit là le psaume 24 de la même manière, c'est que l'important, c'est de ne pas élever son âme pour le vide, ou pire, pour mentir ou pour tromper. C'est-à-dire de ne pas utiliser sa théologie pour justifier l'injustifiable. Ça, c'est un danger réel. Ou encore, de ne pas pratiquer sa religion pour vain, pour rien, ou en vain. Ou même, je dirais, de dire vrai ou de faire ce qui est bien recommandé par l'Évangile. Si vous faites ça pour tromper, pour faire du mal, pour faire chuter le plus petit d'entre vos frères, eh bien, vous faites mal. Il faut se méfier, je crois, des formes extérieures de la religiosité, se méfier des principes qui peuvent éloigner de l'essentiel ou qui peuvent faire du mal. Et donc, même les principes les plus sacrés, même nos convictions les plus précieuses, même notre foi dans ce qu'il y a de plus intime et de plus essentiel, nous devons toujours prendre garde si, en élevant Dieu dans notre vie, nous ne sommes pas en train de servir la ruse, la fausseté et la tromperie. Autrement dit, peu importe votre religion, l'essentiel, c'est que cela vous conduise à l'amour. Et si je dois renoncer à ma conviction pour faire du bien, et si ma parole que je crois vraie peut faire chuter le plus petit d'entre mes frères, je dois y renoncer. Et donc oui, heureux celui qui n'élève pas l'âme de Dieu pour la tromperie ou pour la séduction. Parce que même en croyant servir Dieu ou en étant fidèle, on peut faire du mal. L'essentiel, c'est bien l'attention à l'autre et le bien que cela fait. Même, direz-vous, parler de l'âme de Dieu, c'est quand même un peu bizarre, parce que normalement, c'est les créatures qui ont une âme. Alors, les théologiens juifs, depuis 3000 ans, disent, mais en fait, on peut concilier les deux versions, parce que ça veut dire celui qui n'élève pas son âme, qui est la mienne, c'est-à-dire que mon âme, en fait, elle appartient à Dieu, parce que mon âme, c'est ce qu'il y a de divin en moi. Mon âme, c'est ce qui est attaché à Dieu en moi. Et donc, mon âme et l'âme de Dieu, c'est finalement la même chose. Et c'est pourquoi on peut dire que ce qui est Dieu en moi, ou ce qui appartient à Dieu en moi, heureux si je suis capable de faire en sorte que cela soit au service de l'amour et non pas de la ruse, de la trahison ou de la tromperie. Ce mot tromperie, mirma, il apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse, en Genèse 27, 35, à propos de Jacob. Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, avec tromperie, et il a enlevé la bénédiction. » Jacob, qui a volé la bénédiction de son frère Ésaü à son père Isaac. Gardez ça en tête, parce que Jacob revient au verset suivant. Attention. Et donc, verset 5, il ne lève pas, je dirais, l'âme de Dieu en vain, mais il lève la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu de son salut. Lever. Voyez encore, là il s'agit d'élever, et ce coup-ci d'élever la bénédiction de Dieu. Bénédiction qui est déjà offerte, puisqu'elle est déjà donnée depuis le début, donc nos traducteurs qui disent « il obtient du Seigneur la bénédiction », c'est du baratin. La bénédiction, elle est déjà offerte, mais le croyant, il l'élève. C'est-à-dire cette bénédiction qu'il a eue, au lieu de l'enterrer comme le mauvais serviteur enterre son talent dans le sol, il prend cette bénédiction et il l'élève. Il dit « voilà, c'est mon trésor ». Heureux celui qui sait reconnaître dans sa vie les bénédictions de Dieu. C'est là toute l'importance de l'action de grâce dans la prière. Savoir reconnaître les bénédictions de Dieu dans sa vie. C'est le psaume 103 qu'on disait dans les bonnes familles protestantes chaque fois avant de manger. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Eh bien, ces bénédictions de Dieu, que je sache les élever, et les élever pour les porter à un autre, parce que ce verbe « porter », « lever », c'est aussi porter un fardeau, élever la voix, porter la voix vers un autre pour donner à quelqu'un d'autre. Et donc celui qui élève cette bénédiction pour la porter aux autres, pour la transmettre, pour la donner et pour faire la justice du Dieu qui a déjà été offerte. Voici la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, Jacob. Et là, il y a l'idée de génération, c'est-à-dire de fécondité. Voici celui qui est dans cette démarche eh bien, il a une génération, c'est-à-dire qu'il transmet quelque chose. Et sa vie n'est pas un rameau stérile qui se referme sur lui-même comme une sorte de boule d'égoïsme qui ne mène qu'à la mort, mais celui qui, du coup, s'ouvre et il a une descendance spirituelle. La génération de ceux qui le recherchent, voilà l'essentiel. Rechercher, être en quête. Bon, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être en quête. La génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, d'accord ? Jacob, ah voilà, alors que vient faire Jacob là-dedans ? Ça a fait couler des litres et des litres d'encre depuis des millénaires. Parce que je vous l'ai dit, l'exemple de Jacob est quand même pas très bien trouvé. Jacob, c'est l'exemple même de la tromperie. Comment peut-il être mis là, ici, en exemple ? C'est impossible. Alors, ce qui fait que, depuis tout le temps même, certains manuscrits disant que c'est impossible, rajoutent avant Jacob, Dieu de Jacob. Et ils disent, voici la génération de ceux qui te cherchent, ô Dieu de Jacob. Tout va bien. Mais quand tout va bien, le texte perd son intérêt. Je crois qu'il faut prendre le texte au sérieux. Et justement, voici la génération de ceux qui cherchent ta face, de ceux qui te cherchent. Même toi qui es Jacob, c'est-à-dire plein de tromperies, plein de ruses, plein de méchanceté. Et Jacob, lui, il a su être certainement pas un homme parfait, mais il a su être en chemin. Et il a marché, il a cheminé, il s'est battu avec l'ange, il est sorti boiteux et il s'est réconcilié avec son frère. Et donc l'image de Jacob, c'est justement l'image du pécheur qui est en route, du pécheur qui a cheminé. Il vient là un mot ensuite dans le psaume que personne ne prend au sérieux, je crois que je suis le seul au monde à le commenter, pause. Les commentateurs nous disent que ah ben, c'est parce que c'était chanté, ça veut dire qu'on passe à la strophe suivante, ça veut dire retour chariot, tu parles. Pause en hébreu, ça veut dire pause. Et je pense qu'à la fois ça voudrait dire que quand on lit ce psaume, eh bien on devrait faire une pause, faire un silence de quelques secondes, pause. On écoute, voilà, pause, parce que le silence dit des choses. Ou alors c'est une injonction de dire pause, c'est-à-dire repos. Voici tout ce cheminement, ces montagnes que j'escalade, les mains pures, la tromperie, etc. Je vous dis une chose, pause, tranquillité, calme, repos. C'est un effet de la grâce. Venez à moi, vous qui peinez, je vous donnerai du repos, dit l'Évangile. Et puis la deuxième partie du psaume. Élevez, porte vos têtes, élevez-vous, ouverture d'éternité, qu'il entre le roi de gloire. Élevez, ouvrez-vous. Ça, c'est, je dirais, c'est clair, vous n'aviez pas besoin de moi pour le comprendre. On comprend que pour accueillir Dieu, le roi de gloire, il faut s'élever et s'ouvrir. Et donc, je vous avais dit que la foi n'est pas l'escalade d'un mat de cocagne, mais c'est simplement d'ouvrir pour recevoir. Le salut ne se gagne pas, il se reçoit. Et ce qu'il faut, c'est élever sa tête. Alors, c'est le mot qui est dans le psaume, je suis désolé, les gens nous disent « élevez vos frontons, élevez vos machins », etc. C'est élever vos têtes. Et donc, vous avez compris, j'espère que c'est vous qui êtes les portes. Élevez vos têtes! Frères et sœurs, élevez vos têtes, élevez votre pensée, réfléchissez. C'est essentiel. Le croyant est invité à réfléchir et avoir la foi ne dispense pas d'essayer de penser, de réfléchir et d'élever sa tête, d'élever sa pensée. Qu'il entre le roi de gloire, eh bien c'est ce Dieu en soi, source de tout bien, de tout bien. Et là encore, nos traducteurs nous mentent. Ils nous mettent un subjonctif, qu'il entre le roi de gloire, là où le texte original a simplement un verbe tout à fait simple et actif, élevez vos têtes, élevez, porte vos têtes, élevez-vous, ouverture d'éternité, le roi de gloire, il entre. C'est pas qu'il entre, c'est pas un vœu, c'est pas un souhait, c'est une promesse, c'est une certitude. Dieu entre, il est là et il vient, c'est tout. C'est pas un vœu, c'est offert, c'est certain, c'est là. Et donc il vient, et c'est une évidence et une promesse. Et ensuite il dit, mais qu'est-ce ceci, ce roi de gloire, dit le psaume. C'est l'Éternel, le puissant, le vaillant, l'Éternel, le vaillant pour la guerre. Et ça, c'est une bonne question. Vous auriez pu me la poser en disant, mais finalement, c'est quoi ce roi de gloire? Bonne question. C'est quoi Dieu? C'est ma première leçon pour les catéchumènes. S'il y en a, ils seront prévenus. C'est quoi Dieu? Les gens qui disent « je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu », ça ne veut rien dire. Je dirais, les fous qui font les attentats à New York sur les tours, ils croient en Dieu. Ça va pas. Et il y a des tas d'athées, desquels je suis certainement plus proche au niveau de la conviction profonde que d'autres qui se disent très croyants. Et donc, la vraie question, c'est ça. C'est quoi Dieu? C'est quoi ce en quoi je crois? Qu'est-ce que je crois en Dieu? En quoi croyons-nous? Et là, il ne faut pas se contenter des réponses que vous avez reçues au catéchisme et qui donnent, je crois, trop d'athées, génération après génération. Posez-vous vous-même cette question, c'est quoi Dieu? Et vous avez le droit de trouver votre réponse. Et on nous dit que c'est un roi de gloire. Chercher dans sa vie la force, quelque chose qui nous donne du pouvoir peut-être, quelque chose que nous pouvons servir. Dieu, c'est pour nous quelque chose qui peut nous sauver, qui peut donner de la gloire, c'est-à-dire littéralement du poids. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui donne du poids d'éternité? Et qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui soit capable de m'aider dans les combats, tous les combats de la vie? Et qu'est-ce qu'il y a dans ma vie d'éternel? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Et le psaume revient, « Élevez, porte vos têtes, élevez, ouverture d'éternité. » On reprend la même formule parce qu'il faut remettre, sans arrêt la question à l'ordre du jour et sans arrêt se reposer la question. Simplement, il y a des petites différences. Au verset 7, on disait « Élevez-vous, ouverture. » Et là, c'est simplement « Élevez, ouverture. » Et donc, au début, on s'élève soi-même. Et déjà, tout à coup, on s'ouvre vers d'autres choses. On élève. On s'élève soi et on élève tout. Les autres, le débat, notre relation à l'autre. On sort de cette espèce d'introspection pour s'ouvrir dans une universalité. Donc, élevez. Il n'y a plus élevez-vous. Élevez. Porte vos têtes. Élevez, ouverture d'éternité. Qu'il entre le roi de gloire. Et l'important, c'est bien ça. Les ouvertures. Les ouvertures. Ce n'est pas les fermetures qui nous aident à grandir. Ce ne sont pas les fermetures dogmatiques, les fermetures doctrinales, les fermetures sectaires. Ça ne nous fait pas grandir. Élevez les ouvertures. Agrandissez les ouvertures. Ouvrez-vous. Je crois qu'il n'y a pas de vie spirituelle possible sans cette dimension d'ouverture. Et dans ce temple où nous prêchons et nous pratiquons une authentique ouverture à l'égard de tous les chrétiens d'autres confessions, à l'égard des athées, de ceux qui sont en recherche, où vraiment nous pratiquons cette ouverture. Ça n'est pas par opportunisme, mais c'est par une authentique conviction que la seule religion possible est une religion ouverte, à tout point de vue, ouverte sur les autres et ouverte sur les doctrines, sur les idées, et sur tout ce que l'on peut en dire, pour pouvoir écouter et partager. Et puis enfin, le verset 10 dit, mais qui est lui, ce roi de gloire? Et là, encore un petit changement. Vous avez remarqué qu'avant, on disait, qu'est-ce que c'est, ce roi de gloire? Et là, c'est, qu'est-ce que lui, ce roi de gloire? En hébreu, quoi ça, roi de gloire? Et tout à coup, quoi lui, roi de gloire? C'est-à-dire qu'on passe d'une question impersonnelle à une question personnelle, avec la découverte d'un Dieu qui n'est pas qu'un concept intellectuel, philosophique, mais où je dis, ce Dieu, j'en fais mon Dieu. C'est le passage, je dirais, de la foi à l'espérance. On peut avoir une conception philosophique sur Dieu, l'éternité, etc., et de dire, ce Dieu, cette éternité, cette transcendance, j'en fais mon Dieu. Je découvre que Dieu n'est pas qu'un objet intellectuel, mais devient le sujet même de ma foi et de ma relation spirituelle. Et puis cet Éternel n'est plus un Dieu de guerre, mais il devient l'Éternel des armées. Alors oui, on explique aux enfants que l'Éternel des armées, ce n'est pas les armées avec des soldats, mais c'est les armées célestes, c'est-à-dire les étoiles. C'est pour ça que la traduction liturgique a eu raison de dire le Dieu de l'univers. C'est l'Éternel des armées célestes, de toutes les étoiles du cosmos. Mais prenons au sérieux ce mot « armée » et de dire, voyez, qu'on passe du combat à l'armée. Une armée ne combat pas forcément. C'est d'ailleurs normalement le but d'une armée, c'est d'être uniquement dissuasive et de ne pas combattre. Je dirais, si une armée combat, c'est qu'il y a eu un échec, en quelque sorte, dans l'effort de dissuasion qu'elle peut mener. Et donc l'Éternel n'est plus celui de la guerre, mais celui juste d'une armée, comme une armée céleste, une armée de paix, juste une force qui peut tout vaincre, mais qui n'a plus besoin de s'agiter pour vaincre. Et c'est ça la force, je crois, idéalement, de la foi du croyant, d'arriver à en faire en sorte que sa vie ne soit même plus un combat, mais qu'il ait tellement confiance dans cette force intérieure que lui donne Dieu, qu'il n'y a même plus besoin de combattre, parce que le combat est gagné d'avance. Et le dernier mot, pause. Si vous avez une foi ainsi bien centrée et juste dans un Dieu d'amour, de grâce, et en même temps un Dieu plein de puissance, alors paix sur vous et repos pour vos âmes. Amen.